Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Du Trisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Du Trisac.
Patrick Derry est avec nous pour faire le tour des actualités. Monsieur Derry, bonjour.
Monsieur Dutrisac, bonjour aussi.
Oh, bo, t'as-tu des bonnes nouvelles, Patrick?
J'en ai peut-être une, mais je ne sais pas combien de temps elle va durer.
Bon, on va apprendre.
On va l'apprendre. Donc, les chiffres du jour, on a recensé 1634 nouveaux cas au Québec hier. C'est le plus bas total depuis le 13 décembre. Et si on tient compte qu'il y a environ 200 cas qui sont une correction de cas qui auraient dû être rapportés hier, ça veut dire qu'il faut presque remonter au mois de novembre pour avoir un total qui est aussi bas. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça confirme qu'il y a une tendance à la baisse depuis quelques jours. Il reste à savoir si ça va durer. On va revenir dans quelques instants. 32 nouveaux décès. C'est aussi sous la moyenne des derniers jours, sauf que pour les décès en raison de la transition, il y a énormément de fluctuations, là, parce que les quatre dernières journées avant, on était plus aux environs de 60 décès ajoutés. Donc, total 9087. Plus 31 hospitalisations, ça avait baissé, ça remonte. Encore une fois, les fluctuations sur une journée ou deux, faut faire attention. Donc, on est à 1491 hospitalisations. Plus 2 hospitalisations aux soins intensifs, total de 217. Et moi, j'ai vu souvent cet automne, le lundi, c'est les chiffres du dimanche, les données sont pas toujours complète et souvent on a un petit bon mardi, fait qu'on va voir demain si ça va être le cas. Pour le vaccin, on a donné 23 000 doses samedi. C'est un total qui sauf erreur, le plus élevé depuis le début et qui nous mène à près de 200 000 doses données en tout. Ça compte pas les doses qui ont été données hier. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. En fait, on a vacciné les trois quarts des résidents des CHSLD. Ça représente environ 30 000 personnes. Il en manque encore 10 000. Donc ça, c'est bien, mais c'était un peu la partie la plus facile, si on veut, parce qu'ensuite, il faut vacciner dans les résidences. Là, on parle de plus de 130 000 aînés. Et les 70 ans et plus qui vivent chez eux, et là, c'est presque un million de personnes.
Eh boy, fait que prends un numéro, mets-toi en ligne, hein?
Exactement. Puis après ça, nous autres, là, quelque part cet été.
Oui, c'est ça, si on a survécu. Là, on est rendu, Patrick, à 9000 décès au Québec, là.
Oui, mine de rien, on a franchi les 9000 décès en fin de semaine, dont 3300 morts depuis le 1er septembre. Donc, c'est pas juste la première vague. La deuxième vague a été très meurtrière aussi. C'est un peu gênant parce que c'est plus de morts au total que l'Ontario, en dépit de notre population moindre, mais c'est aussi plus de morts pendant la deuxième vague. On a souvent entendu le premier ministre faire des comparaisons avec des pays d'Europe où ça allait moins bien qu'ici, mais en Ontario, ils ont 2700 morts environ depuis pendant la deuxième vague pour une population qui est plus élevée. Et l'autre problème, c'est que la mortalité est en train de s'accélérer. Si on le voit, ça, dans le temps que ça prend pour atteindre 1000 morts. Donc, pour passer de 5000 à 6000 morts, ça avait pris 128 jours. Après ça, pour se rendre à 7000 morts, ça avait pris 44 jours. Pour se rendre à 8000 morts, ça avait pris 29 jours. Et là, pour passer de 8000 à 9000, ça a pris seulement 20 jours. Fait que même si ça n'augmentait pas au cours des prochains jours, si ça restait stable, ça veut dire que dans 3 semaines, on va avoir ajouté 1000 morts et probablement atteint le seuil des 10 000 décès.
Bon. Ouais, et pendant ce temps, on voit que là, on retourne en classe, au secondaire, puis j'ai vu que t'as sorti un tableau comparatif, Patrick.
Oui, c'est ça, parce que, des fois, on perd un petit peu de vue. On en parlait la semaine passée, on s'habitue à tout, hein. Ce qui était, le seuil d'alerte était à 200 cas cet été. À un moment donné, c'était 500. Après ça, c'était 1000, puis c'était 1500 qu'il fallait pas dépasser. Fait que moi, j'ai voulu regarder où est-ce qu'on était quand on a pris la pause des fêtes. Comment qu'on se situait? Parce que le but, c'était de casser la deuxième vague et de voir où est-ce qu'on en était. Donc, avant la pause des fêtes, ça fait tout juste un mois, on était une moyenne de 1800 cas par jour. Maintenant, on est à 2000. Donc, à peu près un 10% de plus. Avant les fêtes, on était à 35 morts par jour. Maintenant, on est à 50 morts par jour. On était à 1000 hospitalisations. Maintenant, on est rendu à 1500. C'est quand même beaucoup plus.
Mm-hmm.
On avait 130 patients aux soins intensifs. Et là, on est rendu à 215 patients aux soins intensifs. Donc, c'est encore là plus que 50% de plus. Et aujourd'hui, avec la réouverture des écoles secondaires, comme tu le mentionnais, à peu près tous les lieux publics qui étaient ouverts avant Noël vont l'être de nouveau. Évidemment, on n'a pas fermé les hôpitaux, les CHSLD, les résidences pour aînés. Le manufacturier, la construction, ça continue à peu près comme c'était. Les commerces, les grandes surfaces, essentiellement, vont demeurer ouvertes. C'est surtout des petits commerces spécialisés qui vont être fermés. Et là, on rouvre les écoles. Donc, on n'est pas loin du nombre d'ouvertures qu'on avait. On a plus de cas qu'on avait présentement. C'est en train de baisser. Ça, c'est une bonne chose. Mais la question, c'est est-ce que ça va durer? Et en plus de ça, M. Legault, lui, est en discussion avec la santé publique pour ramener les élèves du cégep et de l'université. Là, évidemment, c'est pas pour demain, mais c'est quelque chose qu'il envisage de faire. Donc, c'est créer des nouveaux lieux d'éclosion. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer d'ici, mettons, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, si les mêmes causes produisent les mêmes effets que cet automne.
Mais est-ce qu'on prépare tout ça en s'alliant, tu sais, je sais pas, en s'enlignant, Patrick, avec les vaccins qui rentreraient au pays?
Écoute, moi, l'impression que ça me donne, là, puis c'est une opinion qui est très personnelle, là, ça donne l'impression que on est arrivé à la conclusion qu'on pouvait plus rien faire de plus à part vacciner les gens. Et là, on essaie de vacciner le plus vite possible pour éviter les décès. Et ben pour ce qui est des hôpitaux, on espère que ça débordera pas plus. Mais tu sais, c'est présentement, il y a à peu près le tiers des décès qui sont en CHSLD. Ça veut dire que le 2/3 des décès, c'est des gens qui résidaient pas en CHSLD.
Ouais.
Donc c'est encore beaucoup de décès qui peuvent survenir, des gens qui sont pas vaccinés prochainement, puis qui le seront pas tout de suite non plus, parce qu'on sait que pour les prochaines semaines, on devrait recevoir moins de vaccins. Puis il y a quand même à peu près 1 million d'aînés à vacciner, fait que c'est beaucoup de monde. C'est encore les gens de 60 ans et plus, c'est plus que 90% des décès. Fait que c'est comme si on reposait là-dessus, mais en réalité, c'est pas pour demain. Puis même les gens qui sont vaccinés demain, on le sait, ils peuvent contracter le virus au cours des 2 premières semaines, t'as à peu près pas d'immunité qui s'est construite. Puis même au bout de 3 semaines, c'est pas un vaccin qui immunise à 100%. T'sais, quand t'as une transmission communautaire qui est très, très forte, fait que moi, j'ai comme l'impression que le mois de février pourrait être assez rough.
Mais tu vois, l'aspect positif dans tout ça, Patrick, parce qu'il faut en trouver, là, sinon on va s'ouvrir les veines avec des couteaux en plastique, c'est que c'est pas le ministère des Transports qui gère la campagne de vaccination. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Oui, écoute, le verre est à moitié plein de ce sens-là, hein? Et parce que le ministère des Transports est pris encore une fois dans une tempête, et c'est pas la tempête de neige de la fin de semaine. On se rappelle la commission Charbonneau qui avait montré, disons, des petits problèmes de fonctionnement au ministère. Et là, aujourd'hui, on apprend que la division des enquêtes au ministère des Transports serait essentiellement une coquille vide. Il y a 2 ans, donc en l'automne 2018, il y avait 5 enquêteurs au ministère des Transports. Aujourd'hui, il en resterait un seul qui soit actif. Il y a des cadres aussi qui auraient quitté. Et les conséquences de tout ça, en cours de route, il y a des enquêtes qui ont été abandonnées, il y a des rapports d'enquête qui auraient été modifiés sans le consentement des enquêteurs qui travaillaient sur ces rapports-là. Fait qu'on parle de climat toxique et puis les gens qui s'en sont plaints ont vu leur poste aboli, fait que ça, tu sais, ça va super bien.
Ouais.
Et la réponse du ministère est encore meilleure. Il n'y a eu aucune abolition de poste, mais on dit pas pourquoi les postes sont vacants depuis 1 an et demi. On dit aussi que malgré l'absence d'enquêteurs, le ministère assure qu'il est en mesure de répondre à tous les types d'enquêtes. Donc, c'est un peu, je sais pas, on va peut-être avoir une commission Charbonneau partie 2 dans 5 ans, mais c'est comme si on n'avait pas tiré les leçons de ce qui s'était passé. Puis, le ministère a sa logique propre.
Imagine, Patrick, tous les crosseurs là, qui ont passé par la commission Charbonneau, qui sont encore en business, là, malgré l'autorité des marchés financiers. Imagine là, tous les crosseurs qui se frottent les mains en lisant cet article-là ce matin, puis en voyant la loi 66 là, qui veut réinvestir dans les infrastructures. Y a-tu de l'argent à faire dans les prochaines années avec le ministère des Transports qui s'en mêle dans ces là, cette bottine?
Oui, absolument. C'est pas une bonne nouvelle. Puis moi, ce que je vois là-dedans aussi, ce qui est étonnant, c'est que ça s'est passé depuis un changement de gouvernement. Donc, et là, je veux pas blâmer plus un gouvernement qu'un autre, mais ce que ça semble montrer, c'est qu'il y a une culture qui est propre à ce ministère-là, puis c'est pas le ministère d'ailleurs où c'est le cas, et que peu importe les gouvernements qui changent, la machine, elle, semble terriblement difficile à changer.
Ça a l'air à ça. Puis ceux qui sont opposés au ministère des Transports, je pense à Robert Poitier, je pense à Annie Trudel, ils sont ramassés sur la voie d'évitement. Hein. Mais ceux qui étaient dans la machine, comme Dominique Savoie, s'est ramassé au ministère de la Santé. Elle a eu une promotion. Fait que je pense que ça veut tout dire. Ça, c'est aussi l'autre question. J'en ai parlé avec Christina Michaud du Bloc québécois. Là, la surveillance des voyageurs délinquants, là, c'est une vraie farce là, au Québec, là, puis au Canada. Et partout au Canada, Doug Ford, partout, on pose la question au gouvernement fédéral qui dort au gaz, qui a même nommé un nouveau ministre des Transports qui doit être en train de lire ses dossiers.
C'est formidable. Hein? On sait que c'est une partie des problèmes. Tu sais, le virus n'est pas rentré au Canada tout seul, puis il est rentré par un voyageur. Ben la surveillance des voyageurs, il y en a toujours pas. Ça, c'est essentiellement la santé publique du Canada fait des appels automatisés. Donc on a l'exemple dans le journal d'une dame qui a fait 3 voyages depuis cet été. Ouais. Elle n'a jamais parlé à une personne physique. Puis c'est pas la seule. Il y a d'autres exemples, dont celui que tu viens de nommer. Les voyageurs, ils doivent fournir certains renseignements. Il y a une application qui s'appelle ArriveCan. C'est bien, il faut qu'ils donnent des renseignements chaque jour. Sauf que l'application n'a pas de géolocalisation. Entre ça puis rien, ça donne pas grand-chose. Le contraste est vraiment saisissant. Si tu penses à la Corée du Sud, qui, je le rappelle, est une démocratie parlementaire, là, hein, c'est pas une dictature. Eux, ils ont pris ça, le taureau par les cornes. Puis quand tu débarques de l'avion, on l'installe, l'application, sur ton téléphone, puis on va savoir où est-ce que t'es, et on s'assure que tu vas suivre ta quarantaine. Si t'as pas de résidence permanente au pays, t'es reconduit à ton domicile. Donc, il y a une surveillance qui est beaucoup plus serrée. Alors ici, ben...
Et pourquoi pas un test rapide à l'aéroport, tu sais? Dès qu'il arrive, là, le gros Q-tip, assis dans le nez, puis tu voulais aller au soleil, t'as voilà le prix à payer. Puis on y passe ça dans le nez, bien au fond des sinus, puis pour voir s'ils reviennent avec un virus.
Écoute, le gouvernement fédéral envoie des millions de tests rapides dont certaines provinces, le Québec en particulier, se servent pas. Ouais. C'est sûr que ça pourrait être utilisé à l'aéroport. T'sais, en place, on a préféré pelleter le problème dans les destinations voyage, puis c'est pire que ce qu'on pensait, parce qu'il y a certaines destinations qui en sont exemptées. T'sais, par exemple, dans le cas d'Haïti, on sait que les voyageurs devaient présenter, là, ceux qui reviennent après le 7 janvier, devaient présenter un test négatif pour pouvoir rentrer au pays. Et Haïti a été exempté de cette obligation-là parce qu'ils sont simplement pas organisés pour pouvoir fournir ça. Et là, on a 2 vols qui viennent d'arriver de Port-au-Prince récemment où l'ensemble des passagers est considéré à risque. Fait que
c'est
d'un côté. Puis tu mets, il y a d'autres vols, c'est pas les seuls vols où il y a des gens. Il y a eu 75 vols avec des cas de COVID en arrivant sur en partance de Montréal dans les dernières semaines. Fait que si tu mets ça ensemble, puis tu mets pas de surveillance de l'autre côté, puis les gens qui voyagent, c'est pas nécessairement ceux qui prenaient ça, la pandémie le plus au sérieux. C'est un peu courir après le trouble.
Et selon le Devoir, le premier ministre Trudeau s'est prononcé sur les mesures de quarantaine, là, le suivi, et ça a été extraordinairement efficace. Et je cite le Devoir, là, qui cite M. Trudeau. Extraordinairement efficace. Je ne sais pas sur quelle planète il vit, Justin, mais il ne voit pas la même affaire que nous autres, de toute évidence.
Il doit être plus heureux.
Il doit être plus heureux et plus calme et plus zen en ce lundi. Tu sais que c'est Blue Monday, Patrick, hein? Fait que les mauvaises nouvelles, j'arrête ça là. On va essayer d'être plus jovialiste d'ici une heure. Hey, merci, on se reparle demain.
Plaisir, bonne journée.